Bonjour Sébastien.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Et à la une de plusieurs journaux dans le monde aujourd'hui, Sébastien, il y a notamment le bras de fer entre la Pologne et l'Union européenne qui se poursuit.
Et un échange pour le moins musclé hier au Parlement européen entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Une brouille que le Financial Times observe désormais d'un œil distant mais pas moins attentif. Le quotidien britannique y consacre sa une sur le fond. Bruxelles s'engage à punir la Pologne pour avoir remis en cause l'unité du droit européen, écrit le Financial Times, quand Varsovie dénonce de son côté un deux poids, deux mesures et un chantage de Bruxelles. Mais la forme, le ton de cet échange a également interpellé la presse européenne. En Italie, la Repubblica parle d'un affrontement, d'une confrontation verbale au bord de l'insulte, avec d'abord la menace de la présidente de la Commission européenne d'activer toutes les sanctions possibles, à commencer par le blocage des fonds, et la réponse du Premier ministre polonais qui a rappelé à son interlocuteur allemand que la Pologne s'est déjà battue contre le Troisième Reich. Ambiance Jean-Baptiste.
Oui, un bras de fer qui intéresse particulièrement aussi la presse allemande, hein, Sébastien.
Et oui, le Frankfurter Allgemeine, le Süddeutsche Zeitung et tous les autres y reviennent et ils s'inquiètent. Die Welt le voit bien. Ce différend menace les fondements même de l'Union européenne et pourrait plaire à une personne en particulier. Et oui, les arguments utilisés par le Premier ministre polonais sont les mêmes que ceux utilisés par Boris Johnson pour le Brexit, note le journal. Mais ce que fait ici Varsovie est encore plus dangereux que le Brexit, souligne un eurodéputé. Quoi qu'il en soit, reprend la Repubblica en Italie, compte tenu d'un affrontement similaire qui avait eu lieu la veille lors du Conseil des ministres des Affaires européennes. Un deuxième épisode de cette telenovela aura probablement lieu demain, jour d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens. Il s'agira alors de comprendre à ce stade si et quand la corde se brisera, estime la Repubblica. Oui, c'est certain, estime El Mundo en Espagne. La semaine clé pour l'avenir des relations Pologne-UE et pour la stabilité de l'Union à court terme n'a pas bien commencé.
L'heure des bilans également dans la presse internationale aujourd'hui avec des anniversaires. Hein, et on commence avec les 10 ans de la mort de Muammar Kadhafi, l'ex-guide libyen.
Oui, 10 ans après la mort de Kadhafi, l'Orient Le Jour revient aujourd'hui sur les 4 décennies qui ont façonné la Libye actuelle. Sur l'héritage Kadhafi, politique, social mais aussi économique et qui continue de peser en silence, observe le journal libanais. L'Orient Le Jour nous explique ainsi pourquoi les Libyens ont tant de mal à construire des institutions. Une opposante en exil se souvient par exemple des commémorations de la Révolution chaque 7 avril. Les élèves de son école libyenne à Londres, où elle était réfugiée avec sa famille, étaient alors encouragé à saccager les bureaux de l'administration en signe de protestation contre l'ordre établi conformément à l'anti-étatisme de celui qui se présentait comme le guide d'une révolution perpétuelle. Tous les ingrédients d'une autocratie et d'une société minée étaient là. L'Orient Le Jour égrène des Libyens et une opposition reléguée au rang de figurants au sein d'une mise en scène qui leur échappait. L'instrumentalisation des rivalités claniques et des violences par Muammar Kadhafi. Une armée atrophiée, mal payée, démotivée. La centralisation également, poussé à l'extrême de manière à éliminer les traditionnels échelons du pouvoir. C'est simple, le principe de base, c'était le règne par le chaos, résume un analyste. Alors, cette gestion Kadhafi a évidemment eu des conséquences sur les conditions d'émergence d'une alternative politique après la révolution. Et le pays en paye toujours le prix aujourd'hui.
Et en Espagne, Sébastien, c'est aujourd'hui le 10e anniversaire de la fin de l'activité armée de l'ETA. Hein.
Oui, en effet, il y a 10 ans, le groupe indépendantiste basque annonçait la fin de ses activités après des années de terreur. Et aujourd'hui, donc, une décennie plus tard, eh bien, le Pays basque oscille entre normalité et risque d'oubli, titre El País. Oui, lit-on, dans la rue et en politique, le Pays basque connaît une normalité bien supérieure à celle de l'Irlande du Nord ou de la Colombie qui presque en même temps ont abordé des processus similaires. Les attentats, les menaces ont disparu, poursuit El País, la reconnaissance des victimes est là, le climat politique s'est détendu et les débats identitaires, eux, ont été éclipsés par les problèmes citoyens. Pourtant, cette oasis a un côté sombre, souligne le journal, notamment la tentation d'oublier que le drame vécu, eh bien, nous poussait à comprendre que le terrorisme n'avait aucune justification. Et puis, il y a toujours une certaine fracture avec Madrid. Oui, il y a l'absence d'une mémoire partagée qui empêche encore une coexistence pleinement normalisée, déplore l'article. Et puis, la Razón, de son côté, observe le double jeu d'Arnaldo Otegi, l'ancien leader indépendantiste, aujourd'hui coordinateur de la coalition UH Bildu. 7 heures seulement après un discours larmoyant dans lequel il a demandé pardon aux victimes et montré sa douleur pour ce qui n'aurait jamais dû arriver, eh bien, il s'est adressé aux siens, à Eibar, et il a affirmé que son groupe était prêt à faire sortir les 200 prisonniers politiques encore en prison. Une question des libérations qui met le gouvernement Sanchez dans une situation compliquée, note la Razón, les plaies du passé sont difficilement cicatrisables.